Bonsoir à vous qui êtes nombreux à nous suivre à Abidjan, Kinshasa et même N'Djamena. Et Kabadou avec vous jusqu'à 18h30 en temps universel dans votre émission interactive, à votre avis. On se souvient de Falikou Koulibaly, il dirigeait l'association des Ivoiriens de Tunisie et a été tué lorsque deux hommes ont tenté de lui voler son téléphone selon les autorités. Des centaines de ressortissants de Côte d'Ivoire avaient alors manifesté à Tunis en juin dernier pour protester contre le meurtre du chef de leur communauté dans une attaque qu'ils ont qualifiée de raciste. Plusieurs ONG tentent d'ailleurs de sensibiliser contre le racisme qui sévit sur les populations noires dans les pays d'Afrique du Nord et notamment au Maghreb. Que pensez-vous de cette situation? Comment lutter efficacement contre le racisme? C'est notre sujet de discussion dans votre émission interactive à votre avis. Et un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33. Vous avez également la possibilité de laisser votre numéro de téléphone en amont sur notre page Facebook. Et c'est ce qu'a fait notre première auditeur qui s'appelle Soueb Texan Djaré. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, vous êtes à Conakry, c'est ça?
Oui, je suis bel et bien à Conakry.
Quel est votre avis sur le sujet du jour?
Oui, d'abord, je commencerai à dire bonsoir à tous les auditeurs et encore à tous les invités. Et en ce qui concerne le racisme dans le pays du Maghreb, je dirais que c'est un phénomène aujourd'hui qui devient de plus en plus inquiétant. Donc il faut trouver plus rapidement que possible un frein à ça, ce fléau. En ce qui concerne aussi les solutions par rapport à ces problèmes de racisme dans le pays du Maghreb,
oui,
il faut d'abord passer par une large communication et une information en ce qui concerne la mondialisation des cultures, qui nous parle ici l'acceptation des uns et les autres. Parce que ce que nous constatons, selon nos confrères qui se trouvent aujourd'hui sur ces territoires du Maghreb, selon eux, ils sont discriminés. Oui, parce que tout simplement, ils ont une peau noire. Donc, que ce soit dans les bus, dans les universités, dans les écoles, dans les sanctuaires, les noirs...
Ce que vous dites est une vérité, hein. Des personnes l'ont témoigné, mais il y a aussi des personnes issues de ces peuples qui sont aussi de couleur noire. C'est le cas notamment en Tunisie, où une loi a dernièrement été mise en application, car des personnes tunisiennes de couleur noire ont se sont beaucoup plaint de discrimination, notamment que ce soit dans les cimetières et autres. Donc il y a également ce problème-là de personnes ayant une couleur de peau plus foncée et étant de pays du Maghreb. Donc selon vous, il faut sensibiliser. Sensibiliser de quelle manière, par exemple?
Bon, sensibiliser, on peut passer par les universités, on peut passer par les radios privées et par les télévisions aussi privées, pour sensibiliser les populations, pour dire que nous sommes tous des créatures, nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à s'accepter. Hein? Quelles que soient ici les différences, quelles que soient ici les races, on doit s'accepter, on doit vivre ensemble. C'est par cette méthode-là qu'il faut passer pour sensibiliser, parce que les gens ne sont pas informés. Et pour certains, ils ont la peau blanche, c'est-à-dire qu'ils sont supérieurs aux autres. Ouais, non.
Tout à fait. Il y a une ONG au Maroc qui tente de sensibiliser les jeunes dès l'école élémentaire avec des espèces de valises ayant des jeux pour apprendre de façon ludique la différence qui n'est que la couleur de peau, et en expliquant aussi que voilà, tout le monde a des groupes sanguins différents, mais on est tous formés pareil, sauf qu'on a des carnations différentes. Donc la sensibilisation commence. Espérons qu'elle pour se poursuivre de façon concrète et de façon efficace. En tout cas, merci beaucoup Soabé d'avoir participé avec nous à cette émission. On a un auditeur qui souhaite également intervenir. Il s'agit d'Aruna Baldé qui est au Sénégal. Bonsoir.
Oui, bonsoir la veuve, bonsoir à tous les auditeurs.
Comment allez-vous?
Oui, je vais très bien.
Avez-vous déjà eu l'occasion d'être confronté à une forme de racisme ou pas nécessairement? En tout cas, comment voulez-vous partager avec nous votre expérience, votre avis ce soir?
Alors, personnellement, je n'ai jamais eu à rencontrer ce fléau de racisme, mais mes compatriotes africains, surtout bon, ici au Sénégal, surtout les jeunes migrants, on se rappelle ce qui s'est passé en Algérie, là où on expulsait les migrants venant de l'Afrique de l'Ouest comme des animaux en quelque sorte, vous m'excusez du terme, mais c'est juste le problème du racisme, c'est une question de sensibilisation, une question de civilisation aussi, parce qu'à ce 21e siècle, à mon avis, on ne doit plus parler du racisme, parce que il y a que le même sang qui coule dans les veines, le sang n'a qu'une seule couleur, le rouge en quelque sorte.
Alors, ce que vous dites est tout à fait sensé. C'est vrai qu'en Algérie, nous avons même reçu des appels de personnes qui se faisaient donc expulser dans le désert avec vraiment des conditions très difficiles. Selon vous, la sensibilisation peut passer par quel type de façon?
Alors, moi, je dirais très rapidement, il faut que les dirigeants de l'Afrique aient ce courage-là de fixer la jeunesse dans leur pays. Comment, c'est-à-dire en luttant contre le chômage, en luttant contre le chômage et en créant vraiment les conditions d'employabilité des jeunes. Comme ça, je pense que cela va réduire un peu la question de l'immigration qui causera une partie du racisme en quelque sorte. Parce que les pays maghrébins ne se considèrent pas comme des pays qui se trouvent en Afrique. Là, soyons clairs sur la dessus. Ils sont toujours supérieurs aux pays de l'Afrique de l'Ouest en quelque sorte, aux pays qui ont des gens de peau noire en quelque sorte.
Alors, ce que vous dites existe. Heureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cet esprit de se sentir supérieur. Quelque chose qui est assez frappant, donc les communautés du Maghreb sont souvent musulmanes, comme beaucoup de personnes qui passent par des pays du Maghreb pour se rendre en Europe. Donc, selon vous, puisqu'il y a quand même des points communs, comme la religion, certains points culturels, comment faire pour aider à ne plus rester dans ce genre de cliché?
Certainement, les hommes religieux aussi doivent prôner ce discours-là dans les mosquées, dans les églises, en quelque sorte, pour que vraiment qu'ils disent que le racisme n'a pas sa raison d'être, l'être humain doit être vraiment senti comme un être humain, comme un être humain en quelque sorte, sans distinction. Parce que la couleur de peau ne compte pas, c'est l'esprit en quelque sorte qui est important, c'est l'être humain en quelque sorte.
Merci beaucoup Aruna Baldé d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Un auditeur qui s'appelle Kassavi Nicolas Fabry souhaite également participer. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes au Bénin, c'est bien cela?
Oui, je suis au Bénin.
Alors, quel est votre avis concernant le sujet du jour?
Bon, moi je pense que le fait de parler du racisme, c'est un sujet vraiment sensible pour les Noirs. Donc, comme je l'ai dit sur ma page, sur la page Facebook de VOA, je pense que nous les Noirs, nous devons changer notre mentalité de ce fait. Parce que quand quelqu'un qui est un blanc qui t'insulte, qui te ridiculise parce que tu es un noir, moi je crois que nous consommons cela. Nous les noirs, on accepte ces propos négatifs sur nous, sur notre vie. Et moi, ça me dérange. Si un blanc me parle, il me dit qu'il m'insulte parce que je suis noir ou bien il me rejette, moi je lui réclame immédiatement. C'est pas parce que je dis à un blanc que tu es un blanc qu'il va se fâcher. Mais pourquoi nous, les noirs, quand on dit que tu es noir, tu es black et tout ça là, ça nous énerve. Moi je crois que c'est vraiment. On a des idées négatives. Donc il faut sensibiliser d'abord les noirs, ceux qui ont la peau noire. C'est pas parce que tu es noir que quelqu'un te dit ceci que tu dois accepter. Donc voilà. La sensibilisation vient d'abord des noirs. Avant d'aller, parce qu'on ne peut pas convaincre un blanc de ne pas insulter un noir. Il fait ce qu'il veut. Donc c'est aux noirs de prendre leur décision, de prendre leur vie en main et de changer cette mentalité qu'ils ont. Si quelqu'un insulte-le aussi, et puis c'est fini. Vraiment, ce sujet, ça m'énerve et ça me met en colère quand je vois des noirs réagir et se plaignent que les gens les insultent, les gens sont racistes. Moi, je n'accepte pas ce mot-là.
Alors votre avis, on l'a bien entendu, mais si vous deviez vous retrouver pour une raison ou pour une autre dans un pays qui n'est pas le vôtre, avec des fois des forces de l'ordre qui pourraient prendre parti pour leurs semblables, comment feriez-vous?
Bon, vous l'avez dit, je suis pas dans mon pays, donc je peux comprendre cela. je ne peux pas dire à tous les Noirs de retourner dans leur pays parce que chacun a, fait là où il a sa vie, comment il évolue dans sa vie. Mais si je suis dans un pays où les forces de l'ordre m'attaquent bien, ils sont racistes, et si je veux bien le dire, je ne peux que subir. Je ne peux que subir parce que là, je ne peux pas riposter avec les forces de l'ordre. Mais le mieux est que de retourner chez soi, de retourner chez soi, chercher à faire sa vie chez soi et réussir chez soi. Parce qu'on est mieux chez soi que d'aller ailleurs. Moi, si je suis rejeté, vaut mieux que je rentre à la maison.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis, Fabrice. Merci. On va aller du côté de l'île d'Idjoui avec Jules Bizimana Waléo. Bonsoir.
Bonsoir, maman. Bonsoir, les journalistes. Je vous écoute très, très bien.
Alors, quel avis vous voulez partager avec nous?
Bon, avant de pouvoir ajouter peut-être ma conclusion, j'ai dégagé trois éléments peut-être qui peuvent causer le terme là-bas du racisme. Le premier, j'ai évoqué les complexes qui peuvent être soit supérieurs ou soit inférieurs. Et avec ce terme là-bas, on n'est pas noir parce qu'on a la peau noire ou bien parce que peut-être on est de l'Afrique. Mais ce sont des termes tout simplement là-bas de mentalité. Les gens qui choisissent les autres, toi, tu es noir. Même ici chez nous, ce n'est pas seulement les blancs qui peuvent, que nous pouvons accuser que vous êtes noirs. Il arrive des fois où j'entends ici déjà, quand on te voit qui est très très noir, qui est semblable, les gens avec qui vous partagez la même race, et commencent à te l'utiliser, disent comment tu es trop noir.
Oui, ça existe.
Je ne connais pas. Là où il y a l'huile, vous m'écoutez.
Mm-hmm.
Bon, après cela, quand je vois cela, nous ne devons pas accuser en disant que ce sont les blagues qui maltraitent les noirs. Cela est dû d'abord à la mentalité, à ce genre de complexe là-bas. Il y a aussi peut-être, à mon avis, l'observation. Quand j'ai parvenu peut-être à observer l'insecte qui est même inférieur, j'ai l'envie d'observer, de voir vraiment toutes ces créatures que Dieu a mis au monde. Pourquoi maintenant, quand je regarde mon semblable, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup à me demander. Moi, je vois que ce n'est pas normal. Que nous ne devons pas accuser les Occidentaux, les Blancs, nous-mêmes d'abord. On a une mauvaise mentalité. Et c'est ce qui nous fait même nous qualifier partout où on est. Je pense que le terme là-bas, race, n'est pas de la peau. Mais il faudrait d'abord combattre la mentalité. Et puis, il y a d'autres maintenant, peut-être à mon avis, qui agressent les autres de leur différence naturelle ou de leur différence de la peau. Il faudrait que le gouvernement puisse prendre des sanctions très sévères vraiment pour combattre les gens qui choisissent, qui ridiculisent les autres publiquement comme ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis, Jules Bizama Waléo. À présent, nous allons à Yamsoukro avec notre prochain auditeur. Il s'agit de Falikou Diomandé. Bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
Alors, vous, quel est votre avis concernant la lutte possible contre le racisme?
Moi, je pense que la meilleure manière de lutter contre le racisme, surtout chez les Maghrébins, là, moi, je pense que nos dirigeants doivent de travailler de telle sorte qu'il y ait de l'emploi. Moi, je pense que dans nos différents pays ici, afin de permettre aux jeunes d'y rester. Parce que ces Maghrébins-là se croient mieux que supérieurs que nous autres qui avons la peau noire. Est-ce que vous voyez, madame? Parce que moi, je préfère taire le nom, mais je travaille chez un Maghrébin comme ça qui n'appelle jamais le noir par son nom, il appelle chien. Est-ce que vous voyez?
Et vous supportez ça? Vous supportez comme ça d'être appelé chien?
Ah, mais raison pour laquelle moi j'ai démissionné, est-ce que vous voyez? Parce que Nous n'allons pas là-bas pour commander, nous allons pour
travailler, faire un travail, tout à fait.
Oui. Moi, je pense que nos dirigeants doivent essayer d'arrêter de faire les discours et vraiment penser réellement à s'organiser et à créer de l'emploi afin de permettre aux jeunes de...
Alors, je vous assure qu'avoir de tels comportements aux États-Unis n'aurait pas été possible. On ne peut pas appeler son employé d'une telle manière. Et effectivement, cela vaudrait le coup de sensibiliser pour que les autorités puissent en prendre la mesure, la pleine mesure de ce genre d'acte qui est clairement contre-productif et hors la loi. Est-ce que donc créer de l'emploi éviterait donc que les personnes puissent se déplacer dans des pays dans lesquels ils ne sont pas originaires? Mais une fois sur place, comment faire selon vous pour s'en sortir et ne pas vivre le racisme et sensibiliser peut-être pour faire comprendre que chaque être humain est un être humain, quelle que soit la couleur de peau?
Effectivement, c'est comme ça que nous voyons la chose. Mais est-ce que chez les Maghrébins, c'est comme ça qu'ils perçoivent? C'est qui fait la
Alors, je vous rassure que dans les pays du Maghreb, toutes les communautés ne sont pas racistes. Il y a effectivement du racisme, cela existe. Mais toute la population n'est pas raciste.
Il y a un proverbe africain qui dit qu'il y a un seul grain d'arachide qui gâte un sac d'arachide. Est-ce que vous voyez? Moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est vraiment, je suis vraiment déçu de ces gens-là. Moi, franchement. Et vraiment, c'est en grande partie, j'ai dit ça toujours, c'est en grande partie la responsabilité de nos dirigeants. Parce qu'ils parlent plus qu'ils n'est pas ça, ils ne songent aux actes pour aider la jeunesse. Et c'est ce qui pousse les jeunes à sortir aujourd'hui, ce que vous voyez. Avec les conflits à ne point finir, les conflits politiques, ce que vous voyez. Et c'est ce qui fait que les jeunes aujourd'hui ne voient pas une autre solution que d'aller voir ailleurs et supporter ces choses-là.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience, Falikou. On part à présent à Bamako avec notre auditrice, Mariam Koulibaly. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Kéa.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Et bonsoir tout le monde.
Alors, c'est un sujet assez sensible, le racisme dont est victime des populations noires dans les pays du Maghreb. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté?
Oh, et Kéa, moi, je dirais que le racisme, c'est pas seulement entre blanc et noir, que ce soit en Afrique, au Maghreb ou en Europe ou aux États-Unis.
Malheureusement, le racisme est universel, c'est ce qui est terrible.
Voilà, même entre nous, noirs, quelqu'un qui est né dans une famille royale croit qu'il est supérieur à ceux qui ne viennent pas de la famille royale. Ceux qui sont des hommes de caste, c'est nous. Les nobles croient qu'ils sont supérieurs aux hommes de caste. Alors que non, on est tous égaux. Donc, il y a certains qui montrent plus, qui c'est plus voyant chez les gens que chez d'autres personnes.
Tout à fait.
C'est ça qui fait la différence. Sinon, il y en a partout.
Alors, effectivement, il y en a partout. Donc, quand on a la même race, on appelle ça plutôt la xénophobie ou le tribalisme. Du coup, par exemple, en prenant l'exemple du cas malien, en début de semaine, nous parlions de comment lutter contre les conflits interethniques. Il y a le cas des personnes qui expliquent des fois qu'elles peuvent pas se marier avec des personnes d'une autre caste, parce qu'elles sont, par exemple, Djokoromé ou autres. Comment faire, selon vous, pour sensibiliser et faire en sorte qu'il puisse y avoir des mélanges entre les personnes?
Moi, je pense qu'il faut l'amour d'abord. Il faut que ceux qui s'aiment ou ceux qui souhaitent se marier s'aiment et démontrent. Par exemple, chez nous au Mali, ici, il y a des familles qui disent « Ma fille ne se marie pas avec telle personne parce qu'il est de telle race. » Mais les deux personnes qui s'aiment, ils partent jusqu'à délaisser les parents.
C'est ça le grand problème, c'est que les personnes ont peur de se faire renier.
Voilà. Ils sont haïs pendant 2, 3, 4, sinon 10 ans. Les parents ne s'intéressent à rien de ce qui se passe chez ce couple-là. Mais en fin de compte, les parents, ils résignent. Donc ça veut dire que c'est le couple qui a démontré, qui a mis en valeur son amour.
Alors ça demande quand même beaucoup de courage,
voilà, des sacrifices
aussi, oui. Mariam Koulibaly, restez avec nous en ligne. Un auditeur souhaite rebondir sur ce que vous venez de dire. Il s'agit d'Oumarou Zada Massaoudou.
Allô.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, Ça va bien. Et les activités?
Ça se passe bien. Écoutez, vous êtes dans quelle ville actuellement? Dans quel pays?
Je suis au Niger. Je suis dans le département de Gaya. Je suis Tandale, dans la commune de Tanda.
Alors, on a beaucoup d'auditeurs au Niger. On les salue. Est-ce que c'est une situation que vous connaissez? Vous êtes frontalier à de nombreux pays, hein, pays du Sahel. Donc vous connaissez la population arabe, les Touaregs, etc. Est-ce que le racisme dont nous parlons ce soir est quelque chose que vous avez déjà expérimenté?
Oui, oui. Le racisme, vraiment, si on peut continuer à... Allô.
On est toujours en direct, hein, on vous écoute. Ah, nous vous perdons, Oumaroum, malheureusement. On essaiera de vous reprendre. En attendant, nous avons un auditeur à Obameka, la vie au Bénin. Il s'agit de Vincent Seounou. Bonsoir.
Oui, bonsoir, cher journaliste.
Alors vous, quelle est votre opinion concernant le sujet de ce soir?
Mon opinion sur ce sujet, je vous dirais que vraiment c'est très grave d'assister à cela, surtout que le Maghreb fait partie du continent africain. Alors qu'eux, ils se déclarent qu'ils ne sont pas des Africains, qu'ils ont la peau blanche, la peau comme la peau blanche. Mais pourtant, nous sommes, nous cohabitons. Quand on assiste, on voit la Tunisie, chaque fois, rien que des agressions contre le racisme. Mais on a dépassé cela. Nous ne sommes plus autant de Hitler, aussi autant d'abattés dans l'Afrique du Sud. Eux, on va assister à l'antisémitisme. Nous sommes des mêmes. Je les appelle à aller à l'école de Nelson Mandela et de Frédéric Sekonsor, ou moi, où ils avaient compris que chasser la peau noire est un crime contre l'humanité. Nous sommes appelé à diriger la nation comme eux aussi le continent africain. On ne veut pas continuer à assister à cela. Donc je les invite surtout à nous faire comprendre et à aussi, pour que s'ils ne veulent pas écouter, on va les sanctionner. L'ONU, l'Union africaine et aussi les autres institutions peuvent toujours les sanctionner en disant, mais si vous n'appliquez pas cela ou bien si vous ne faites pas cela, vous serez dégagé, vous ne serez pas partie de ces institutions. Là, si cet embargo sera partie de ces pays-là, là, on va au moins tout pouvoir diminuer cette agression, cette attaque, ce racisme qui continue toujours de régresser l'Afrique du Nord.
Merci beaucoup Vincent Seounou d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Un auditeur, Mamadou Lamaranba, qui nous appelle de New York aux États-Unis. Bonsoir.
Oui, bonsoir à vous et bonsoir à l'ensemble des auditeurs.
Alors vous, quelle est votre opinion concernant le sujet de ce soir?
Bon, d'abord, je déplore le racisme sous toutes ses formes. C'est vraiment c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter à ce 21e siècle. Les Noirs qui subissent ce racisme au Maghreb, on ne doit pas oublier que le Maghreb, c'est une partie intégrante de l'Afrique. Les Africains sont libres de se promener partout sur le territoire africain. Donc, on ne doit pas faire accepter cette différence de couleur entre les peuples de cette planète. Donc, l'Union africaine, la CEDEAO, les organisations sous-régionales du continent doivent se donner la main pour combattre ce racisme dans ces pays arabes. C'est inadmissible. Regardez ce que ces Noirs sont en train de subir en Libye.
En Libye aussi, oui.
Au Maroc, en Tunisie. Vraiment, c'est révoltant et sous le silence coupable des organisations sous-régionales du continent, surtout de l'Union africaine, là où on parle d'intégration africaine.
Donc, bon, dans le cas vraiment, de la Libye, les pays se sont mobilisés, ont essayé de rapatrier tous leurs ressortissants. Malheureusement, il y a des personnes qui y retournent avec vraiment l'espoir de pouvoir atteindre l'Europe au prix des fois de perdre leur vie, d'être vendus en esclavage ou pour les femmes d'être violées. Même les hommes sont parfois violés. Donc,
absolument, absolument. Nous suivons tout sur les réseaux sociaux. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose de déplorable. Et surtout, j'invite mes compatriotes noirs à éviter ces pays arabes. Vraiment, quoi que l'on fasse, ces arabes-là, le racisme, c'est dans leur sang. c'est dans leur sang.
Bon, on n'ira pas jusqu'à dire que c'est dans leur sang, mais bon, il y a des faits historiques qui rappellent qu'il y a aussi un passé esclavagiste de certaines populations arabes. Néanmoins, je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Merci à tout un chacun pour votre écoute. Un grand merci également à l'équipe technique composée aujourd'hui, entre autres, de Michel Joseph et Firmin Max Kouyaweda. Dans quelques instants, une nouvelle édition Le Monde aujourd'hui avec Abdourahmane Dia et Eric Manirakiza. Merci encore pour votre écoute et Kabadou avec vous.